14h10 à Paris, 8h10 à Haïti. L'heure de retrouver le journal des Amériques. C'est avec vous, Adrien Delgrange, bonjour.
Bonjour à tous. De Caracas à Buenos Aires, de Port-au-Prince à Lima, bienvenue à tous dans votre journal des Amériques du 1er mars. Au sommaire, la terre a tremblé ces dernières heures au Pérou. C'est un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Un nouveau plan humanitaire pour les Haïtiens. Le gouvernement lance un appel international pour aider en urgence les plus vulnérables. Dans la revue de presse de Romain Lemaresquier, nous irons notamment au Venezuela, au Nicaragua et aux États-Unis. Et puis enfin, dans ce journal, nous parlerons du Pisco. Le Chili et le Pérou se disputent la paternité de cet alcool.
RFI.
Place à la revue de presse donc des Amériques pour débuter ce journal. Romain Lemaresquier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lu la presse du continent à la une de ce vendredi, direction d'abord la frontière entre le Venezuela et la Colombie, avec pour commencer une expulsion qui ne passe pas inaperçue, celle d'une Vénézuélienne expulsée par l'Office des migrations colombiens.
Oui, c'est le quotidien Tal Cual qui détaille cette affaire. Il s'agit d'une fonctionnaire de la police nationale vénézuélienne qui aurait tenté de s'infiltrer parmi des soldats qui ont déserté et rejoint la Colombie. Elle tentait, selon les autorités colombiennes, d'obtenir des informations sur les processus mis en place par la Colombie pour venir en aide aux réfugiés vénézuéliens. Cette fonctionnaire a donc été expulsée discrètement, selon Tal Cual. Elle est désormais interdite d'entrer sur le territoire colombien pour les 10 prochaines années. Et puis, toujours à cette frontière entre le Venezuela et la Colombie, les autorités de Bogota vont porter plainte contre les autorités vénézuéliennes pour avoir bloqué les ponts à la frontière entre les deux pays, avec des charges qui mettent en péril ces structures et les personnes qui les franchissent, nous apprend ce matin La Patilla.
Le Venezuela, Romain, il en était également question hier au siège des Nations Unies à New York.
Oui, avec deux résolutions présentées hier devant le Conseil de sécurité, précise Efecto Cucuyo. La première émanait des États-Unis et proposait l'organisation d'élections avec des garanties et des observateurs internationaux, ainsi que l'entrée de l'aide internationale. Une résolution bloquée par le veto de la Chine et de la Russie. La deuxième résolution était quant à elle présentée par la Russie, qui proposait la mise en place d'un dialogue mais sans pour autant envisager des élections. Une résolution qui n'a pas abouti faute de vote, détail Efecto Cucuyo. Et puis pour être complet, sachez que Juan Guaido, le président par intérim autoproclamé du Venezuela, sera aujourd'hui au Paraguay, nous apprend Ultima Hora, après une visite hier au Brésil où il a notamment rencontré le président Jair Bolsonaro.
En Argentine à présent, Romain, la justice condamne un juge pour entrave dans l'enquête sur l'attentat visant la communauté juive. Nous étions alors en 1994 à Buenos Aires, attentat qui avait fait 85 morts et 300 blessés.
Oui, le juge Juan José Galeano a été condamné à 6 ans de prison pour entrave à la justice, nous apprend La Nation. Il était accusé d'avoir remis 400 000 dollars à un indic de la police pour que ce dernier accuse un groupe de policiers d'avoir organisé cet attentat. L'ancien patron des services secrets argentins, Hugo Ansoregui, a quant à lui été condamné à 4 ans et demi de prison, également pour entrave à la justice. Par contre, cette justice a acquitté l'ancien président Carlos Menem, qui était soupçonné d'avoir donné l'ordre de suspendre l'enquête. Une enquête qui n'a d'ailleurs jamais été menée à son terme, puisqu'à l'heure actuelle, le pire attentat jamais commis sur le sol argentin n'a toujours pas été élucidé, même si Israël et l'Argentine affirment depuis des années que l'Iran se cache derrière cet attentat, détaille le quotidien Clarín.
À l'écoute des RFI, 11h passées de 14 minutes à Buenos Aires. Nous restons en Argentine avec cette affaire qui provoque l'indignation. Une affaire du nom de Lucia, cette fillette violée par le compagnon de sa grand-mère, a été soumise à une césarienne par des médecins qui voulaient sauver le fœtus qu'elle portait. Fœtus de 5 mois qui aurait actuellement très peu de chances de survie. En Argentine, l'avortement est interdit, sauf justement en cas de viol. Écoutez ce reportage à Buenos Aires d'Audvillier Moriamé.
Des dizaines de militantes sont réunies devant le secrétariat d'État de la Santé à Buenos Aires. Sur leur pancarte, on peut lire « Niñas, no madres », des petites filles, pas des mères. Patricia Bustamante est avocate spécialiste des droits de l'homme.
L'avortement n'est pas pénalisé dans certains cas, notamment en cas de viol. Donc que les autorités de l'hôpital décident de repousser cette procédure, c'est illégal. En fait, ils l'ont fait traîner jusqu'au moment où ils se sont dit « là, c'est bon, on peut pratiquer une césarienne ».
Lucia a passé plus d'un mois à l'hôpital à demander qu'on lui pratique un avortement légal. Mais les médecins se sont tous déclarés objecteurs de conscience. Une situation insupportable selon Céleste McDougall, activiste pour le droit à l'avortement en Argentine.
Nous réclamons non seulement de nouvelles politiques publiques, mais surtout que l'Église, que toutes les Églises arrêtent de s'immiscer dans des décisions extrêmement personnelles. Ça suffit, l'obscurantisme. Au fond, on réclame et on exige surtout la séparation de l'Église et de l'État.
L'an dernier, les Argentines se sont mobilisées par millions pour soutenir la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. La proposition de loi a été rejetée par le Sénat, mais les militantes en présenteront une nouvelle devant le Congrès d'ici quelques semaines. Audevillier Moriamé, Buenos Aires. RFI.
La suite à présent de votre revue de presse, Romain Lemaresquier, au Nicaragua. Le dialogue entamé mercredi dernier fait du surplace pour l'instant.
Oui, hier se tenait la deuxième session de discussion pour définir la feuille de route et les modalités de négociation pour tenter de trouver une issue à la crise, détaille le quotidien La Prensa. Une feuille de route qui devait être annoncée hier, mais le gouvernement de Daniel Ortega refuse toujours la présence de l'Organisation des États américains comme médiateur et la présence d'une délégation des Nations Unies. Pour le pouvoir en place, il s'agirait d'ingérence. Par contre, après un premier refus, les autorités seraient prêtes désormais à donner leur accord pour que ce soit l'Église catholique qui fasse office de médiateur. Une solution qui permettrait enfin à ces discussions de débuter. Un dialogue qui s'annonce long et compliqué, estime La Prensa.
Et puis enfin, Romain, aux États-Unis, une nouvelle affaire pour le président Donald Trump. Accusé d'avoir ordonné qu'on donne à son beau-fils, Jared Kushner, également conseiller du président, une habilitation dite top secret.
Oui, c'est le New York Times qui a révélé dans un premier temps cette affaire. Début 2018, Donald Trump aurait donné l'ordre à son ancien chef de cabinet, John Kelly, de fournir cette accréditation top secret à Jared Kushner, et ce, alors même que les officiers du renseignement s'y opposaient. Une demande qui aurait laissé sans voix John Kelly, qui a même documenté cette demande pour qu'une trace écrite soit conservée. John Kelly a depuis quitté son poste en janvier dernier. Une commission de la Chambre des représentants présidée par un élu démocrate a déjà ouvert une enquête sur les habilitations en matière de sécurité délivrées à la Maison-Blanche. Une commission qui attend que la Maison-Blanche lui remette les documents réclamés pour poursuivre son enquête et qui menace d'employer des moyens alternatifs pour obtenir ces fameux documents si la Maison-Blanche ne les lui fournit pas. Pour Adam Schiff, élu démocrate et membre de cette commission, cette affaire est, je cite, le dernier indicateur du mépris total du président pour notre sécurité nationale et pour les hommes et les femmes qui sacrifient tant chaque jour pour assurer notre sécurité. Des propos repris par le Washington Post.
Merci Romain. Romain Lemaresquier pour votre revue de presse des Amériques.
Cap Haïtien, 100.5 FM.
À l'écoute des RFI, parlons à présent de la situation humanitaire en Haïti, situation qui ne s'améliore guère ou en tout cas très lentement depuis ces dernières années. L'instabilité politique n'aide en rien à la pérennisation des programmes d'aide et de développement. Le changement climatique menace aussi le pays cette année. Les effets de la sécheresse sont très inquiétants pour Haïti. Alors pour tenter de répondre aux besoins de la population, le gouvernement vient de lancer en partenariat avec l'ONU et des ONG un appel à donations pour aider les plus vulnérables. À Port-au-Prince, Amélie Baron.
Au printemps, plus de 2,5 millions d'Haïtiens risquent de se retrouver en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Un demi-million sont déjà en situation de crise, ce qui, dans la classification du secteur humanitaire, correspond au dernier niveau avant l'état de famine. En lançant le plan de réponse humanitaire, le Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan a prêché pour une aide ciblée et efficace.
Chers partenaires de la communauté internationale, je souhaite que les actions soient orientées vers les régions les plus affectées, que les partenaires mettent un accent particulier sur la mitigation des risques et des désastres. J'exhorte donc les différents ministères à faire un suivi régulier et continu des activités liées à la réponse en vue de redresser les éventuelles déviations. Le gouvernement voudrait à ce que l'aide humanitaire soit de qualité et distribué en vertu de la dignité humaine.
Pour concrétiser le plan de réponse humanitaire qui vise entre autres à répondre à l'insécurité alimentaire, à préparer le pays aux catastrophes naturelles et à lutter contre le choléra, il faudra trouver plus de 110 millions d'euros. Le problème est que l'an dernier, le précédent plan n'avait été financé qu'à hauteur de 11%, mais cela n'empêche pas Mamadou Diallo, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en Haïti, de rester optimiste.
Haïti a des amis. Les amis d'Haïti ne se sont jamais lassés de ce pays. Ils continuent toujours de demander à ce que l'action humanitaire soit aussi soutenue par des efforts de développement. Vous avez raison que le plan de l'année passée n'a été financé officiellement qu'à 11%, mais les autres actions humanitaires en dehors du plan amènent le financement à près de 34%. Évidemment qu'on peut faire mieux. Ce que la famille humanitaire a fait cette année, c'est de faire un travail de ciblage et de priorisation. Plutôt que de demander des montants énormes, nous avons demandé des montants raisonnables pour des actions concrètes. L'ambition n'est pas de pouvoir couvrir tout, mais c'est de pouvoir créer les conditions pour que ceux et celles qui sont les plus vulnérables, qui souffrent, puissent être assistés afin qu'ils retrouvent des moyens de vie, qu'ils retrouvent des capacités de réaction et de résilience.
Les violentes manifestations qui ont paralysé le pays pendant la première moitié de février ont montré une difficulté supplémentaire pour la lutte contre la crise humanitaire. Pendant cette période, nombre de citoyens se sont retrouvés dans l'incapacité totale de se rendre à l'hôpital et des centres hospitaliers se sont retrouvés sans aucun personnel soignant. Mamadou Diallo appelle la classe politique à respecter le droit d'accès à des soins.
Ce que nous avons voulu dans le cadre de nos actions, c'est de développer une sorte de pacte pour l'hôpital. Et de demander à ce que l'hôpital, les services de santé et l'école soient des sanctuaires qui sont en dehors des querelles politiques ou des manifestations. Le centre de santé, c'est la dernière ligne de défense des Haïtiens les plus vulnérables. L'hôpital doit pouvoir fonctionner, quelle que soit la situation. Et les acteurs politiques doivent pouvoir laisser l'hôpital comme un sanctuaire, là où les Haïtiens peuvent aller se réfugier et trouver du confort.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
RFI. Las voces del mundo.
C'est un alcool qui aujourd'hui cause bien de la discorde entre deux pays. Je vous parle du pisco. Deux pays d'Amérique latine, le Chili et le Pérou, s'affrontent depuis des années autour de cette appellation d'origine contrôlée qu'est le pisco. Cet alcool tiré de la distillation du raisin oppose les deux voisins. Mais le Pérou a bien l'intention de défendre la propriété intellectuelle de son alcool. C'est un sujet de notre correspondant au Pérou, Eric Sanson.
À Lima, le vice-ministre de la production, de la micro et petite entreprise, Javier Davila, est aussi à la tête de la Commission nationale du Pisco. Il passe une partie de son temps à expliquer que le pisco chilien n'est pas vraiment du pisco.
Ce qui est curieux, c'est que le Chili a donné à son aguardiente le même nom que notre pisco, alors que les processus de production sont différents. Ils sont allés jusqu'à changer le nom d'une région qui s'appelait l'Union pour l'appeler Pisco Elquin, en référence à une de leurs marques. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait, car ce sont deux produits différents dans leur processus de production, leur couleur et leur saveur.
La Commission nationale du Pisco a été créée car dans les années 80, les Péruviens se sont rendus compte de problèmes de qualité dans la production de leur alcool national. Tous les acteurs publics et privés du secteur se sont mis d'accord sur des normes techniques de qualité. Des normes très strictes, comme le rappelle Vanessa Chavez, assistante à Arequipa du chef des opérations du bar, le musée du Pisco.
Nos règles techniques indiquent qu'il y a 5 régions productrices de pisco au Pérou. Lima, Ica, Arequipa, Tana et Moquegua. Et dans chaque région, il y a des vallées spécifiques pour produire du pisco. À Arequipa, si le pisco est fait à Cayoma, ce n'est pas du pisco. Au Chili, ils n'ont pas la même norme technique. Ils n'utilisent pas les 8 cépages que nous avons. Ce que l'on discute, c'est le nom, car la saveur des deux alcools et les processus de production sont totalement différents.
Le mot pisco est probablement originaire d'un vocable quichua signifiant oiseau. Il est également possible que le nom de cet alcool provienne du port péruvien de Pisco, par où il était exporté à l'époque coloniale. Prédica, Fiorella Fernandez est guide dans une hacienda productrice de pisco depuis des siècles.
La partie de la distillation qui ne nous sert pas est traitée pour faire de l'alcool médicinal, des engrais ou vendus à des compagnies qui font des parfums. C'est ce que l'on appelle la queue et la tête. Le corps que nous utilisons pour faire le pisco ne représente que 25% de la vendange. C'est pour cela que le pisco n'est pas bon marché.
C'est une extraction très fine, pour eso es que el costo del pisco no es barato.
Les Chiliens affirment que le mot pisco est un mot générique, un peu comme le vin, et qu'il peut donc être utilisé par tous. Une notion que les Péruviens comme le barman Elar Calcina ne partagent pas, car ici le pisco n'est pas n'importe quel alcool.
Cuba a le Cuba libre, le Mexique, la tequila et les margaritas, et tout le monde connaît le Pérou pour le pisco sour et le pisco.
Pour Vanessa Chavez, la polémique a peut-être quelque chose à voir avec les difficiles relations entre le Pérou et le Chili, opposées au XIXe siècle lors de la guerre du Pacifique. Pour elle, l'origine péruvienne du pisco ne fait pas de doute.
Pour l'histoire.
C'est pour l'histoire. On fait du vin et du pisco depuis 400 ans au Pérou avec l'arrivée des Espagnols. Tous les documents prouvent que le pisco est péruvien, quoi qu'en dise le Chili.
Souhaitant obtenir une appellation d'origine contrôlée pour le pisco, les autorités péruviennes ont récemment remporté une bataille, comme le rappelle le vice-ministre Javier Davila.
Dans certains accords commerciaux avec l'Europe et les États-Unis, nous avons dû céder et accepter de partager avec le Chili le nom de pisco. Mais notre lutte est de faire en sorte que le pisco soit reconnu comme n'étant que péruvien. Dans certains pays, nous avons commencé les démarches administratives pour faire reconnaître l'appellation d'origine contrôlée. L'Inde est le premier pays qui a récemment reconnu que le Pérou est le seul pays à pouvoir utiliser le nom de pisco.
Le Pérou a produit l'an dernier 7 millions de litres de pisco. 40% sont exportés, dont presque la moitié au Chili. Récemment, des compagnies péruviennes ont été accusées de manquer de patriotisme en acceptant de vendre à Santiago un pisco péruvien ne s'appelant pas pisco, mais aguardiente, pour respecter la loi chilienne. Elle pourrait être sanctionnée par les autorités péruviennes dans ce conflit qui s'éternise autour de la propriété intellectuelle du plus fameux des alcools péruviens. Eric Sanson, Eric Ipa, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Adrien.
Alors le groupe Total met un terme à ses opérations de forage au large de la Guyane. Total s'en va, mais c'est l'heure de la soupe à la grimace apparemment pour le président de la collectivité territoriale de Guyane, Benoît.
Oui, les projets mirifiques fleurissaient déjà, semble-t-il, dans les pensées et sur le bureau de Rodolphe Alexandre. Et puis, patatras, vous l'avez dit, Total n'aurait pas trouvé la moindre goutte de pétrole au large des côtes guyanaises et va donc remballer son matériel de prospection. C'est officiel. Une décision évidemment saluée par les associations de protection de l'environnement, mais bien difficile à avaler pour le président de la CTG qui a confié son amertume et son incompréhension au micro de Nickerson Perdus.
C'est quand même une ressource potentielle sur laquelle beaucoup d'autres élus majeurs avaient pensé. Aujourd'hui, on ne peut qu'atteindre l'analyse faite par les géologues, les sismologues et autres, pour comprendre comment se fait-il que du côté du Guyana, voire du Suriname, il y a une réserve pétrolière, et du côté du Brésil, il y en a également une autre. Donc c'est un problème, on va dire, qui pose question, même pour les géologues. Et moi, je suis interpellé. J'ose dire que je suis abasourdi, parce que ça signifie que le contexte guyanais en matière économique se rétrécit.
On passe à une actualité plus gaie en tout cas, pour Terre de Haut. Terre de Haut, c'est une petite commune de l'archipel des Saintes, au sud de la Guadeloupe. Et Terre de Haut a été sélectionnée pour participer à la célèbre émission de Stéphane Bern sur France 3, le village préféré des Français. Un petit coup de projecteur bienvenu pour une petite île encore très peu connue. Reportage Nadine Fadel.
Ici, tous s'organisent pour profiter de la belle publicité dont bénéficie la destination au national. Reste à élargir les offres sur une île somme toute non extensible. Louli Bonbon, maire de Terre de Haut.
Ce focus, évidemment, risque de nous faire avoir davantage de touristes et il faudra qu'on s'y prépare. Et donc, c'est avec les acteurs locaux que nous allons réfléchir sur les possibilités d'accueil qu'il y aura à développer et surtout proposer aussi des activités nouvelles.
Le développement touristique de Terre de Haut se fait par la force des choses, conjointement à celui de la Guadeloupe.
Ma maman disait que la Guadeloupe, ce bel pays, mais si Panis-les-Saintes y est trouvé mal habillé.
C'est une très bonne nouvelle, pas seulement pour nous, pour toute la Guadeloupe, parce qu'on sait très bien qu'en venant aux Saintes, on passe forcément par la Guadeloupe.
Puisqu'il s'agit désormais de voter pour son village préféré, c'est à vous de jouer.
Bon après-midi, bon week-end, Adrien, à lundi.
Merci beaucoup Benoît Ferrand pour toutes ces informations ultramarines. Une dernière information, sachez que Rio va vivre au rythme du carnaval. Alors d'un point de vue politique, après avoir vu déferler la vague ultra-conservatrice qui a porté Jair Bolsonaro à la présidence du Brésil, Rio de Janeiro s'apprête donc à vivre à partir d'aujourd'hui, 1er mars, un carnaval contestataire, nous annonce-t-on, qui va mettre en valeur les femmes, les noirs et les Indiens. Ainsi se referme ce journal où que vous soyez sur la planète. Merci à vous de l'avoir écouté.